Bye.
Salut.
Une station créée pour les gens de Québec. Yeah! Pas de script, pas de personnage, pas de rire en canne, de la spontanéité à l'état pur. Ici, la radio que vous voulez entendre avait l'instinct de parler de ce qui vous intéresse.
That's amazing.
Et jouer la musique que vous aimez.
There's nothing fake.
Chaque jour, on vous livre notre quotidien, votre actualité, au rythme de ce qui se passe dans notre ville et partout ailleurs dans le monde.
Bring the country together.
Mettant en vedette plein de dudes pis de dudettes bien sympathiques qui connaissent leur affaire.
You didn't know it until now.
Aucun film.
Dans l'auto, à la maison ou au bureau, tout le temps, c'est Boulevard 102.1.
Ce segment d'émission présenté par Pièces d'auto économique. Pièces d'auto économique, c'est des pièces neuves garanties, les meilleurs prix et des grandes marques comme Ribestos, Bosch et Mévotech. Pièceséconomique.com.
Salut, bonsoir Québec, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1. Je te souhaite de passer un bon début de soirée et je vais t'inviter à rester là pour le podcast de 60 minutes qui est diffusé dans les prochaines secondes. Juste avant, on va regarder ce qui se passe côté météo avant de parler avec mon chum Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. Ce soir, cette nuit, c'est un minimum de moins 5, un ciel dégagé. Demain, vendredi, congé pour certains, alternance de soleil et nuages avec un maximum de 11 degrés. Samedi, de la pluie. Dimanche, un ciel dégagé avec un maximum de 7. Un maximum de 16 quand même pour samedi, même si on nous annonce de la pluie pour samedi. 16 degrés, ça se prend bien. Donc, dimanche, ciel dégagé, maximum de 7. Et lundi, à plus long terme, ben là, le soleil s'installe avec un maximum de 12 degrés. Le podcast de Marceau ce soir avec Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. Ça se passe maintenant.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Salut, bonsoir, Nicolas Gagnon.
Bonsoir, Yannick, ça va bien?
Ça va très bien. Pour les gens qui t'écoutent pour la première fois, moi, dans Marceau, le soir, je pense que je t'ai reçu peut-être 3-4 fois, mais il y a peut-être des gens qui sont dans leur voiture ou qui t'écoutent en podcast, qui t'entendent pour la première fois. La Fédération canadienne des contribuables, c'est quoi exactement? Puis toi, concrètement, qu'est-ce que tu fais pour la province de Québec?
Bien, la Fédération canadienne des contribuables, c'est une organisation à but non lucratif qui existe depuis bientôt 35 ans au Canada. Donc, on a tout un historique et notre mission essentiellement, c'est d'avoir moins d'impôts, moins de gaspillage de l'argent des contribuables puis un gouvernement plus responsable. Et de mon côté, ben, je suis le directeur à Québec et aussi, le directeur des affaires francophones. Donc, je couvre un peu les dossiers en français dans les autres provinces quand c'est nécessaire ou au niveau fédéral. Et notre job, essentiellement, en tant que directeur, c'est d'intervenir sur toutes les tribunes et même parfois jusqu'en commission parlementaire auprès des élus pour représenter les intérêts des contribuables, que ce soit là, dans le cadre des budgets ou que ce soit pour débattre d'un projet de loi ou pour carrément dénoncer des augmentations de taxes ou d'impôts, ou sinon le laxisme par rapport à des promesses qui ont été faites auparavant. Bref, il y a un peu tout ce qui est fait à ce niveau-là et notre but, c'est de s'assurer à ce que les politiciens livrent ce qu'ils ont promis aux contribuables et que les contribuables en aient plus pour leur argent à la fin de la journée.
Qui en voudrait à la Fédération canadienne des contribuables? Moi, ça me rassure qu'il y ait un organisme comme le tien qui prenne ma défense constamment dans les médias ou qui prenne ma défense constamment face aux politiciens. Ça me rassure beaucoup que tu sois là, puis j'aime bien t'écouter une fois de temps en temps. Puis en plus, te recevoir en entrevue. Mais qui peut détester la Fédération canadienne des contribuables? Y en a-tu qui sont juste pas capables de vous sentir? Puis à chaque partie d'employés, ben, y a la grosse face de Nicolas Gagnon sur le jeu d'or.
Ça dépend du ministre, sinon, ou du syndicat, de la fonction publique, plus souvent qu'autrement, c'est peut-être... Puis en même temps, moi, on n'a pas d'ennemis. Je considère que tout le monde est contribuable à certains égards, tout le monde paye des taxes et des impôts, tout le monde mérite d'être représenté, puis il y a même des gens dans ces différents organismes-là, il y a même des gens dans la fonction publique, des fois, qui s'arrachent les cheveux en disant « ça n'a pas de bon sens, il y a du gaspillage, on devrait faire mieux ». Puis il y a même des gens dans les syndicats aussi qui se disent la même chose, donc essentiellement, on n'a pas d'ennemis, c'est garanti, puis on est prêt à travailler avec tout le monde, à gauche comme à droite, tous les partis politiques. Donc, on est vraiment non-partisans, puis on tient sincèrement à le rester. Donc, on n'a pas d'ennemis, mais ceci étant dit, c'est vrai que parfois, il y a des groupes peuvent avoir peut-être un certain recul par rapport à nos positions. Une parmi tant d'autres que je peux citer d'ailleurs, c'est notre victoire de cette semaine. Du moins, la semaine a commencé un peu comme ça. C'est avec le prix plancher sur l'essence qui va être aboli au Québec. Ben ça, c'est un combat que nous, à la Fédération, on mène depuis plusieurs années et qu'on a même martelé. Puis on a ramené de l'avant parce que ça avait été promis en mai 2024. Puis finalement, Fitzgibbon, qui l'avait promis, ben il a fini par démissionner avant que le projet de loi 69, qui était supposé intégrer la fin de ce mécanisme-là, ben, il a démissionné juste avant. Fait que c'est tombé dans les limbes et nous, on s'est assuré de ramener de l'avant ce dossier-là. On a mis de la pression sur la CAQ puis on finit par livrer. Mais on sait qu'il y a certains commentateurs, certaines essenceries indépendantes, certains groupes qui sont contre l'abolition de ce mécanisme-là et qui n'aiment pas le combat qu'on a mené à ce niveau-là. Donc, ça existe des opposants sur ce dossier. Comme plusieurs autres, on rappelle aussi les fameuses baisses d'impôts qui nous ont été livrées en 2023. Nous, on était parmi les rares groupes sur la place publique qui demandaient non seulement ce qu'on ait des baisses d'impôts et que le gouvernement reste engagé en ce sens, mais qu'on en ait plus dans le futur également. Et on se rappelle que les syndicats à cette époque-là, entre autres la FTQ et CSN, avaient fait beaucoup de bruit en ce qui a trop baisse d'impôts et s'y opposaient fermement. Bien, donc, ça peut arriver qu'on croise de fer avec certains de ces groupes-là, mais à la fin de la journée, on est là pour travailler avec tout le monde.
Ouais, je viens d'avoir un flash, Nick, puis je te l'ai envoyé sur ton Messenger. Puis je veux pas que tu mentionnes l'appel d'offres que je t'ai envoyé, puis justement ce qui est, les renseignements qu'il y a là-dessus, là, c'est sur ton Messenger. Mais j'ai halluciné hier quand j'ai pris acte d'un truc qui se passait au conseil de ville, un contrat qui avait été octroyé. Puis là, en lisant le sommaire décisionnel, je regardais justement ce dit contrat-là. Et à la fin, si tu peux regarder sur la dernière page, là, il y avait deux soumissionnaires sur l'appel d'offres. Okay? Et le premier soumissionnaire a soumissionné à 354 960 $, c'est pour de l'acide phosphorique blanche à 75% en citerne palette. Techniquement, à quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est? J'en ai rien à foutre. Mais on me dit, c'est 354 960 $. Ça, c'est le premier soumissionnaire. Le deuxième arrive, et là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec cette entreprise-là, mais soumissionne à 119 340 $. C'est pratiquement 234 000 $ de différence, Nick. Et quand je regarde les commentaires du fonctionnaire qui est chargé de recevoir justement ces soumissions-là, je vois un conforme et un non conforme. Donc, pour le 354 960 $, donc le soumissionnaire le plus cher, lui est conforme et l'autre à 119 340 est non conforme. Puis je répète aux auditeurs, il y a 234 000 $ de différence. Là, moi, mon tableau de bord allume comme pas possible. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y en a un qui arrive à 120 puis l'autre qui arrive à 350? Ça n'a pas de bon sens, patati patata. Et quand je vois la note administrative du fonctionnaire, Nick, c'est écrit « La formule de soumission n'a pas été dûment remplie. » Et là, quand je me pose des questions, des fois, en français, je suis un enfant de chienne, là. Je communique avec des gens qui sont à l'hôtel de ville, je communique avec des policiers, des conseillers, je veux en savoir plus. Puis j'ai mis la main sur un ancien conseiller politique au municipal qui a été aussi conseiller municipal, puis j'y ai parlé de ce cas-là. Et lui, il m'a dit, ça, c'est le cas typique du fonctionnaire qui a des critères à faire respecter. Et s'il y a un formulaire qui n'est pas dûment rempli, ben, il laisse tout simplement cette soumission-là de côté et il passe à la prochaine. Mais Nick, il y a 234 000 $ de différence entre les deux. Et là, j'ai dit à l'ex-conseiller, je dis, qu'est-ce qui empêche le fonctionnaire d'appeler l'entreprise pour dire, « Hey, je regarde votre soumission, il y a une petite problématique, là. Le formulaire A38 n'a pas été dûment rempli. Pouvez-vous justement finir ce formulaire-là puis nous l'envoyer? » Puis après ça, regarder les soumissions, puis après ça, faire le choix, parce qu'au Québec, on a la politique du plus bas soumissionnaire. Et sais-tu qu'est-ce que l'ex-conseiller m'a dit, Nick? Il m'a dit... Il m'a dit, il n'y a rien qui a été mis en place pour ce genre de choses-là quand ça arrive. Ce qu'ils ont mis en place, c'est un mur de béton entre le fonctionnaire puis l'entreprise qui soumissionne pour le dit contrat. Donc, le fonctionnaire n'a pas le droit d'appeler l'entreprise pour dire « Hey, si tu changes telle affaire, tu pourrais peut-être avoir le contrat sans aucun problème, c'est toi le moins cher. Fait que le fonctionnaire, en raison du fait que le papier n'a pas été bien rempli, il y a eu des petites erreurs, une virgule à mauvaise place, ben il est obligé de passer à l'autre soumissionnaire et il y a 235 000 piastres de différence. C'est un 235 000 qui aurait pu servir pour nos parcs, qui aurait pu servir pour nos loisirs, qui aurait pu servir pour nos infrastructures, qu'on a mis de côté en raison du fait qu'il n'y a pas rien qui est prévu à cet effet. C'est hallucinant quand tu regardes ça.
Ben, oui, à 100 %, ben c'est hallucinant. Puis tu te dis, ça, c'est pour un seul contrat, c'est pour 234 000 $ puis on a la difficulté à comprendre là, ce qu'on veut ici dire par fourniture et livraison d'acide phosphorique blanche à 75 % en citerne palette. Ben, donc, c'est ça le nom de l'appel d'offres. Puis on se dit, OK, 234 000 $ pour cette simple appel d'offres comme ça, imaginez si on déterrait tous les autres appels d'offres où on a eu des situations similaires. Là où je peux comprendre un peu la procédure bureaucratique sans la défendre, c'est que, imaginons une seconde si un fonctionnaire pouvait prendre le téléphone puis justement appeler un des soumissionnaires et dire, ah ben regarde, si tu remplis mieux le formulaire, peut-être que tu pourrais gagner le contrat. Alors, tu sais, ça pourrait peut-être donner place à des cas de collusion ou peut-être même plus de conflits d'intérêts qu'on n'a clairement pas de besoin, puis on a vu tellement de cas au Québec auparavant. Ceci étant dit, il devrait avoir une forme d'élasticité là-dessus où est-ce que le fonctionnaire pourrait simplement, sans dire voici ce qui manque ou voici comment vous pourriez gagner le contrat plus facilement parce que vous êtes les seuls à l'obtenir, vous avez le meilleur prix. Mais tu sais, quand on parle d'une on parle vraiment d'un manque de conformité. Encore là, c'est très dur à établir qu'est-ce qui n'est pas conforme. C'est parce qu'il manque une signature sur la deuxième ligne de la troisième page. Puis à cause de ça, ben, on va payer 234 000 $ de plus avec l'autre soumissionnaire parce qu'il y a eu une niaiserie de main qui a été oubliée.
Ben, j'ai ta réponse, Nick. Dans ce dossier-là, là, la personne a tout simplement oublié d'écrire la réponse qui lui était posée. Ça coûte 235 000 $ aux payeurs de taxes de cette ville-là en particulier.
Ça n'a pas de bon sens. Puis, je veux dire, on s'entend, là. C'est pas comme s'il manquait une page complète par rapport à des détails sur, mettons, l'impact environnemental du produit, tu sais, des affaires comme ça, où est-ce que là, oui, on tombe dans des normes bureaucratiques puis réglementaires, mais c'est comme normal que ce soit inclus dans la paperasse. Mais là, quand on parle effectivement d'une simple réponse qui n'a pas été fournie, puis à cause de ça, non seulement que ça coûte plus cher aux contribuables, mais tu sais, c'est une entreprise qui perd quand même un contrat qui aurait été sûrement lucratif pour elle. Jamais je croirais que pour le montant dont il faisait la soumission, qui n'était pas un minimum, qu'il n'y avait pas des bénéfices avec ça, là. C'est surtout que c'est quand même deux fois moins élevé que l'autre contrat qui a gagné l'appel d'offres. Fait que non, pour moi, je trouve ça ridicule. C'est sûr qu'il devrait avoir un peu plus de latitude pour les fonctionnaires, ne serait-ce que pour avoir un droit de regard, peut-être pas sur pour intervenir dans le contrat, mais comme quand on parle d'une simple norme bureaucratique, qu'on ne se mette pas non plus à capoter pour des détails et des points-virgules, mais le problème, pour aller dans le même sens que le conseiller municipal avec qui tu as parlé, ben, c'est qu'on a carrément mis le fonctionnaire dans un genre de cubicule en brique. Là, tu ne peux pas sortir de là, tu vas rester avec tes œillères. Puis si jamais ça sort du cadre administratif donné, ben tu flushes le contrat, puis ben c'est les contribuables qui paieront la note anyway. Puis c'est malheureusement c'est une pratique qui est courante et généralisée à grandeur du Québec. Là. Donc on pourrait en déterrer des cas de même à journée longue, puis on ferait juste encore plus dépressif par rapport à tout ça. Là.
Mais tu sais, une job de notaire, tu sais, le notaire est capable, lui, de prendre les trois parties ou les deux parties, puis d'être neutre avec les trois parties. On pourrait avoir un genre de système, un peu comme on a avec les notaires, qui fait la transmission des informations sans nécessairement prendre un bord ou l'autre. Il va juste dire, voici ce que moi j'ai constaté. Il y a le formulaire A37 qui n'a pas été rempli dûment. Est-ce que tu peux le faire? J'aimerais ça renvoyer ça à la ville. C'est demandé par les fonctionnaires. Mais à ce moment-là, je veux dire, il n'y a pas plus d'informations qui ont été données. L'autre, il a juste oublié d'écrire un mot, puis that's all. Mais ça a coûté 235 000. Je l'ai sur le cœur. Je suis un payeur de taxes. Je suis régulièrement la Fédération canadienne des contribuables en raison du fait que je suis tanné de payer des taxes constamment puis de ne pas avoir de retour sur mon investissement. Fait que quand je vois ça passer, ces affaires-là, Nick, je ne sais pas si je suis le seul, mais ça me fait suer parce que 235 000 $, tu peux faire beaucoup de choses avec ça. Parlant d'argent, on a été décoté hier. Et le gouvernement, j'écoutais Éric Girard là, essayer de, de nous faire croire qu'il n'y a rien là, qu'on l'avait peut-être un peu prévu, c'est pas si grave que ça, c'est juste une maison qui a pris cette décision-là. Les autres maisons n'ont pas pris cette décision-là. Comment tu as pris ça, toi, le fait qu'on se fasse décoter? Hey, c'est arrivé dans les années 90, je pense que c'était-tu au début des années 90 que c'est arrivé? C'est Robert Bourassa qui était là à l'époque?
Ouais. C'est arrivé en 93, précisément, c'est la dernière fois que ça a eu lieu. Puis moi, je ne le prendrais pas comme une simple tape sur les doigts, là, comme on dirait qu'Éric Girard a tendance à réduire un peu l'impact de cette décision-là, puis vu que les autres maisons n'ont pas bougé, parce que bon, c'est vrai que c'est une agence de crédit, c'est Standard & Poor's. Il en reste qu'il y en a plusieurs autres, il y a Fitch, il y a Morningstar, il y a aussi là, Moody's, puis Japan Credit, puis un autre paquet d'organisations qui évaluent en fait la santé des finances publiques du Québec. Et là, on a eu vraiment le premier signal d'alarme. On a eu des drapeaux rouges auparavant, on les avait souvent pointés du doigt avec le déficit de l'année dernière, entre autres, de 11,4 milliards. On a encore ramené les drapeaux rouges d'avant cette année qu'on a réalisé que finalement le déficit du gouvernement est encore plus élevé, un autre record après un autre. Et on rappelait aussi, pas juste nous, mais d'autres organisations de la société civile, on martelait à plusieurs reprises que c'est insoutenable d'avoir un déficit structurel comme on en a un au Québec où est-ce que les dépenses augmentent plus rapidement, deux fois plus rapidement que les revenus. C'est une réalité avec laquelle on compose depuis déjà plus d'une décennie, en fait. Et aussi, en tout cas, l'impact de cette décision-là, il ne faut pas la prendre du tout à la légère. Non seulement c'est la première en 30 ans, mais ça envoie un signal aux autres agences de crédit. Donc, peut-être que pour l'instant, les autres n'ont pas encore bougé l'aiguille, mais elles pourraient le faire au fur et à mesure, surtout si elles voient que non seulement Standard & Poor's avait raison dans ses prédictions, mais qu'en plus, le gouvernement du Québec ne donne pas l'impression qu'ils priorisent la rigueur budgétaire. Parce que ce qu'ils ont dit S&P hier, dans le fond, c'est que, puis pour la raison pour laquelle ils ont décoté le gouvernement, c'est de un, c'est ça, c'est les fameux déficits, autant au niveau structurel qu'au niveau opérationnel. C'est aussi de mentionner le fait qu'on a non seulement une population vieillissante, mais un ralentissement économique à venir, des dépenses beaucoup plus importantes au niveau des pensions, au niveau des conventions collectives également. C'est donc mentionner aussi que quand le gouvernement s'est littéralement mis à quatre pattes devant les syndicats en 2023, là, ben ça, il y a un prix à payer pour ça. Et ça fait partie de l'équation que Standard & Poor's a mis en place pour établir qu'on devait perdre un peu notre cote de crédit. Et il y a deux autres points qui sont importants. De un, le manque de crédibilité par rapport au plan du retour à l'équilibre budgétaire d'Éric Girard, ça ne tient pas la route. On l'avait déjà mentionné au lendemain du budget, mais on ne doit pas être les seuls parce que les agences de crédit disent pareil en ce moment. Et finalement, l'imprévisibilité à cause des élections l'année prochaine. Je l'ai répété souvent, je pense, en ondes au BLVD, puis très souvent avec toi également, un gouvernement qui fait le ménage en pleine année électorale, ça n'existe pas. Et honnêtement, comment en trouve un? Parce que tout le monde sait que le ménage, c'est impopulaire, ça vient généralement avec des décisions qui sont drastiques, et on est rendu là à prendre des décisions drastiques, mais l'année prochaine, on est en élection, et un gouvernement n'a pas intérêt justement à faire autre chose qu'à lancer des nananes en espérant se faire élire. Et d'un autre côté, vous avez les partis qui pourraient remporter les élections, comme par exemple le Parti québécois ou à la limite le Parti libéral, qui ont jusqu'à maintenant quand même présenté des cadres financiers qui étaient pas mal plus dépensés ou aussi dépensés que la CAQ. Donc, le résultat serait pas vraiment différent et pourrait être pire à long terme.
Ouais.
Donc, tout ça étant pris en considération, ben ça nous indique une chose. Les finances publiques du Québec sont dans une très mauvaise posture présentement. Et je pense que le dernier élément qui est à ajouter, là, c'est que Éric Girard il a peut-être dit « Ah, c'est pas si grave que ça », mais la dernière fois qu'on a été downgradé par Standard & Poor's, ça nous a pris 25 ans pour en fait rehausser cette cote-là. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut changer. Là. Ça peut prendre une génération avant qu'on puisse donner le coup de barre nécessaire pour rétablir notre cote. Parce qu'à la fin, puis ça, c'est, je pense, le plus important pour les contribuables, c'est le coût, en fait, de la dette qui va augmenter au final. La cote de crédit d'un gouvernement, c'est comme votre cote de crédit. Plus votre cote de crédit est mauvaise, plus quand vous allez à la banque, ben les prêts sont avec des conditions plus serrées, les intérêts sont plus élevés, ou à la limite, la banque vous dit non. Puis là, bonne chance pour vos projets ou pour quoi que ce soit. Mais là, c'est la même chose pour le gouvernement. Les taux d'intérêt de la dette pourraient augmenter à cause de ça. Et en fait, ils vont augmenter à cause de ça. Et là, présentement, cette année, ça nous coûte 9,7 milliards en services sur la dette aux contribuables québécois qu'on paye en taxes et en impôts pour payer de l'intérêt sur une dette. Ça va coûter encore plus cher au courant des prochaines années à cause de ça.
10 Donc, milliards. C'est encore plus d'impôts. 10 milliards, oui. Nick, là, tu sais, c'est ça qu'on va payer là, en intérêt. Tu fais combien d'hôpitaux avec 10 milliards? T'en fais au moins 10?
À peu près. Facilement.
Tu fais combien d'écoles? Tu fais combien de ponts? Tu fais combien d'arénas? Tu fais combien de parcs pour que nos enfants puissent se divertir? C'est énormément d'argent. Puis là, ben, tu sais, cette maison-là, là, qui est une agence de notation financière qui s'appelle Standard & Poor's, le S&P, en fait, bon, il n'y en a pas juste une, là, il y en a plusieurs, mais l'an dernier, DBRS et Moody's qui avaient allumé des voyants jaunes à propos des finances du Québec. Mais il n'avait pas changé la cote de crédit à ce moment-là. Éric Girard avait diminué l'importance de ces petits avertissements-là. Et là, ils ont lancé de nouveaux avertissements après le budget Girard le 25 mars, qui était carrément écrit à l'encre rouge foncé. Le fait qu'S&P se penche sur nous, ça peut-tu avoir effet que les autres puissent regarder ce qui se passe un peu à Québec, finalement, au Québec, c'est-à-dire?
Oui, ben c'est garanti que ça peut avoir un effet domino. Là. C'est, je veux dire, si y a une agence de crédit qui va de l'avant, généralement, les autres vont s'ajuster en conséquence. Là. C'est pas la même chose pour votre propre cote de crédit. Si Equifax revoit votre cote à la baisse, il y a des bonnes chances que TransUnion fasse pareil. Donc, c'est pas tout à fait toujours les mêmes modèles en termes de cotation, mais il n'en reste qu'ils prennent à peu près tous les mêmes critères en considération. Et l'état des finances publiques du Québec, je veux dire, de manière objective, on peut l'évaluer de toutes les manières que possible, ça revient au même. Les dépenses augmentent plus rapidement que les revenus. On a topé les dépenses gouvernementales au cours des dernières années pour très peu de résultats. Puis ça, c'est autant d'un point de vue de contribuable que d'un point de vue, en fait, là, au niveau des finances comme telles. C'est juste la santé. On est rendu, je pense, à 58 % de plus en santé depuis que la CAQ est arrivée au pouvoir. Pour l'instant, je ne pense pas qu'il y ait une seule amélioration qui a été faite. On attend encore les rénovations à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal, là, qui est rendu honnêtement une blague par rapport à ce que les standards de services de santé dans un pays du G7 devraient nous offrir. Là. Quand on regarde tout ça, d'un point de vue contribuable, c'est désolant, surtout de se dire que non seulement le gouvernement n'a jamais dépensé autant, on n'a jamais quand même été aussi imposé et taxé malgré la petite baisse d'impôts qu'on a eue il y a à peu près 2 ans. Mais en plus, le gouvernement, il n'y a plus aucune marge de manœuvre pour baisser les impôts comme il l'aurait. Ou s'il veut se donner une marge de manœuvre, bien là, il doit couper, il doit réduire ses dépenses. Puis c'est à peu près c'est le mot d'ordre qui est envoyé par S&P, en fait, dans leur communiqué, en fait, c'est-à-dire que le gouvernement doit freiner les dépenses. Puis ça, c'est un message qu'on martèle également. L'Institut économique de Montréal a également rappelé le message. Et à peu près tout le monde s'entend là-dessus. Donc, ma crainte, en fait, c'est effectivement que si Standard & Poor's a pris cette décision-là, les autres vont effectivement aller de l'avant. Et là, ça va encore plus resserrer ce à quoi je faisais référence tantôt, là, les fameuses conditions au niveau de l'emprunt, parce qu'on a une dette au Québec. Cette dette-là, elle augmente et elle augmente. On parlait des 10 milliards qu'on paye en intérêt cette année. Ça ne va pas faire baisser la dette. C'est de l'argent qu'on paye en intérêt. Dites-vous qu'au courant des 5 prochaines années, c'est 55,8 milliards de dollars qu'on va payer d'ici 2030 en intérêt sur la dette. Donc, on parlait des hôpitaux. Combien on peut faire d'hôpitaux pour 10 milliards? Imagine le nombre d'hôpitaux qu'on peut faire pour 55 milliards. Ben, cet argent-là, ça va nulle part d'autre que payer sur de l'intérêt sur une dette qui va atteindre la dette brute du Québec en 2030, c'est 325 milliards. Ça veut dire qu'entre le moment où est-ce que Legault va être arrivé au pouvoir en 2018-2019, et la fin de la décennie, en 10 ans, on va avoir augmenté la dette de pas loin de 50 %. Les dépenses gouvernementales vont avoir augmenté, rendu là, ça va être quasiment du 75 % d'augmentation en 10 ans. Et les résultats sont où? On attend encore pour un médecin de famille. La moitié des écoles sont vétustes. On a encore un nid de poule devant chez nous qui est refait à tous les 6 mois. Je veux dire, je pense que le contribuable moyen a toutes les raisons de se poser la question en ce moment. Coudonc, mon argent, ils font quoi avec à Québec? Et je pense que les agences de crédit se posent la même question en ce moment. Fait que moi, j'espère en fait que le drapeau, ben, l'alarme qui a été sonnée va être l'ultime sonnette d'alarme que la CAQ va entendre pour pouvoir commencer à faire le ménage. Mais je reviens à ce que je disais tantôt, ben, un ménage en pleine année électorale, bonne chance. Parce que là, c'est exact. Pas un petit ménage de surface comme ils ont fait dans le dernier budget en éliminant quelques crédits. Là, ils vont devoir couper dans la fonction publique.
Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est désastreux pour la CAQ, même si Éric Girard tend à essayer de sourire quand il donne des entrevues à Patrice. Là, mais sa dernière année, la dernière année électorale, normalement, c'est une année qui sert aux partis politiques à remercier les gens qui ont voté pour eux dans l'espoir de revoter pour eux si on redonne assez de services et d'argent aux contribuables. Mais là, ils ne pourront pas faire ça. Ils vont devoir couper à certains endroits. Puis pour un gouvernement qui coupe, c'est extrêmement néfaste. Mais les autres partis politiques aussi vont devoir faire des promesses électorales. Là. Bon, ben nous, on vous propose, voici notre cadre financier, même si à cette heure, en en politique. On le voit au fédéral, on n'a plus besoin de cadre financier pour faire les élections, là. Mais ils n'auront pas le choix de le faire. Voici comment on va faire pour faire fonctionner le Québec. Mais il va falloir qu'ils coupent eux autres aussi. Puis, tu sais, s'il y a un peu de positif que je peux voir, là, c'est ce que ma grand-mère disait, la fin justifie les moyens. On va avoir faim, on va avoir besoin d'argent. Puis au Québec, je sais que la Fédération canadienne des contribuables, c'est à travers le Canada au complet, mais toi, tu t'occupes du Québec. Au Québec, j'ai l'impression qu'on va se dire, OK, c'est le temps d'exploiter nos ressources qui dorment dans notre sol. Au lieu de prendre ça d'ailleurs et d'importer ça chez nous, on est aussi bête de devenir producteur pour quelques années, le temps de se sortir du trou. Je suis persuadé qu'on va s'en aller vers là, c'est-à-dire l'exploitation de nos ressources à nous. Et là, tu sais, quand on dit l'acceptabilité sociale, là, la fin justifie les moyens. Les gens, ils voudront pas d'augmentation de taxes. Les gens voudront pas qu'on coupe dans la fonction publique parce que c'est des bonnes jobs dans la fonction publique. Donc, ils vont accepter qu'on exploite nos ressources, même si y a peut-être un petit oiseau au Panama qui va peut-être en souffrir à long terme.
Oui, puis encore là, on n'est même pas sûr si ça va faire souffrir les oiseaux au Panama dans la mesure où est-ce qu'on peut effectivement éliminer des émissions à l'autre bout de la planète en utilisant les hydrocarbures qu'on a, par exemple, au Québec. Si on envoie, par exemple, du gaz naturel
en Inde,
par exemple, ben ça, c'est un exemple en plus qui a été souligné par Pierre Poilievre, mais ça fait hier dans le débat en français, mais ça a été mentionné aussi auparavant dans d'autres études, c'est que le but de développer nos ressources naturelles, où ça crée de la richesse, des revenus pour le gouvernement, mais l'exportation de ces ressources-là à l'étranger ou l'utilisation à des fins local, ça permet de réduire tant le transport, donc du fait qu'on dépend aussi d'importation, mais aussi ça permet de réduire les émissions à l'autre bout de la planète où est-ce que l'accès à des formes d'énergie plus propres n'est pas nécessairement accessible. Donc ça, c'est des choses comme ça qui sont clairement à mettre de l'avant parce que, oui, dans l'état des choses, si on ne veut pas couper, puis je pense que ce serait totalement irresponsable de ne pas faire le ménage au minimum puis de couper dans le gras parce qu'il n'en manque pas du gras à Québec, ou du moins au niveau de l'appareil gouvernemental du Québec. Mais d'un autre côté, si on se tourne vers une augmentation de revenus, il faut que ce soit une augmentation de revenus qui est dopée par une productivité économique plus intéressante, puis oui, des revenus sur les ressources naturelles. Je voyais en réponse à ça, il y a eu des critiques là, de la part, par exemple, du PQ puis de Québec solidaire par rapport à ce que S&P a été annoncé hier. Et Québec solidaire disait, bon, ben, c'est une preuve qu'il faut être davantage plus progressiste puis augmenter les revenus. Et eux autres, le discours pour augmenter les revenus en tout respect, c'est augmenter les impôts et les taxes. Les contribuables québécois ne peuvent pas se permettre de payer plus d'impôts ni de taxes. On est le citron le plus pressé de l'Amérique du Nord présentement, puis il n'y a plus de jus qui sort. Donc, puis c'est ça le pire, en fait, dans la situation actuelle, c'est que en tant que contribuable, la meilleure des choses qui peut être faite présentement pour aider l'économie puis aider le portefeuille, ce serait des allègements fiscaux. Mais là, le gouvernement du Québec, de François Legault, n'a plus de marge de manœuvre à cet effet, ou du moins n'a pas la marge tant qu'il ne va pas faire le ménage dans les dépenses d'un autre côté. Mais s'il va faire le ménage dans les dépenses, il se retrouve à être confronté aux syndicats qui vont tout faire pour pas que ça arrive. Puis vous arrivez avec ce combat-là en pleine année électorale. Donc, vous devez choisir vos amis et vos ennemis. Et ben, en fait, le seul ami pour moi qui compte dans les circonstances, c'est le contribuable qui mérite d'être entendu. Mais est-ce que François Legault va choisir le contribuable? Est-ce qu'il va revenir à ses promesses ou du moins à sa plateforme de 2018 où est-ce qu'il parlait de développer les ressources, alléger l'État puis réduire les dépenses gouvernementales? Parce que ça, c'était le François Legault d'il y a 7 ans. Mais il faudrait qu'il revienne à cette approche-là s'il veut vraiment donner le coup de barre qu'on a besoin au Québec. Mais si ça se fait pas, effectivement, ça va être de pire en pire pour les générations futures de contribuables.
Ah, puis peut-être que c'est moi qui est un peu trop à droite économiquement, là, mais à un moment donné, il va falloir cesser d'écouter les takers, là, ceux qui prennent tout le temps, puis on va se concentrer un peu plus sur les givers, ceux qui donnent, les payeurs de taxes qui sont tout le temps vidés constamment parce que les givers, les takers en ont toujours de besoin. Tu sais, le Québec solidaire, bon, a sa raison d'être, représente une certaine partie de la population. On aide ces gens-là, c'est tout à fait normal. Moi, je suis ouvert à donner, mais à un moment donné, les écouter constamment en disant imposer encore plus celui qui donne constamment, puis celui qui reçoit constamment sans donner, ben lui, il faut qu'il en reçoive encore plus. Tu sais, je comprends l'égalité, mais à un moment donné, si on se ramasse tout à la soupe populaire, on n'est pas plus avancé, là. Fait que écoutons ceux qui donnent, puis mais je pense que c'est mon petit côté de droite économique qui parle, ça me fâche. Puis parlant de la décision de S&P qui nous a décotés, tu sais, François Legault a tout le temps utilisé l'Ontario comme baromètre. Hein? Il dit tout le temps, on est meilleur que l'Ontario. Si on se compare à l'Ontario, Curieusement, c'est toujours comparé à l'Ontario. Bien, le SNP a attribué au Québec une cote de crédit qui est inférieure maintenant à celle de l'Ontario. François Legault, les dernières heures, même s'il les a passées aux Canadiens de Montréal, puis ça, ça regarde mal en sacrament. Ton gouvernement vient de se faire décoter. Il y a un débat des chefs à la télé au fédéral, puis toi, t'es à la game du Canadien de Montréal à applaudir les Canadiens. Ça fait dur en sacrament, mais bref, lui y a été. Puis hier, ben, c'est une claque sur la gueule qu'il a reçue. Là. L'Ontario est plus performante que lui, visiblement.
Ben oui, puis autant, c'est sûr que ça dérange ses plans. Son ambition politique première, c'est qu'on réduise nos inégalités avec l'Ontario. C'est bien beau, mais ça ne se fera pas. Puis je pense que la décote d'hier, ça venait de pas mal mettre le dernier clou dans le cercueil de l'ambition de François Legault d'y arriver. En fait, là, il n'y a pas le choix de se revirer de bord et de retourner à ses vieilles tactiques, ou du moins de revenir à plutôt son vieil adage de développer le Québec, puis de développer nos ressources. Puis comme je dis, tout ce que François Legault aurait besoin présentement, autant pour mieux servir les contribuables que de l'autre côté, peut-être mieux servir son héritage politique, c'est de revenir à sa base et de revenir à ses débuts. Mais là, bon, c'est à lui de voir comment est-ce qu'il va faire son cheminement politique à partir de là. Mais une chose est sûre, le Québec, là, on est dans une mauvaise posture. Puis là, en plus, je comparais avec mes collègues là, au niveau de... on comparait au lendemain des budgets, parce que là, la fameuse saison des budgets est officiellement terminée. Il était temps, là, parce qu'il y a eu quand même 10, il y a eu 10 budgets. Il manque juste le gouvernement fédéral à produire le sien. Puis le Québec, là, je n'ai pas encore les chiffres complets, mais on est en deuxième position parmi les pires, là. La seule province qui est pire que nous au niveau du déficit par habitant, des dépenses gouvernementales par habitant et du poids de la dette par habitant, c'est vraiment Terre-Neuve et Labrador, mais on est juste après eux autres. Donc, on fait mauvaise figure au niveau de nos finances publiques quand on se compare avec nos voisins, puis quand en plus nos agences de crédit nous observent puis nous évaluent. Donc, je veux dire, c'est quand même très dommage pour un gouvernement qui était supposé celui du parti de l'économie, là. Je veux dire, la CAQ s'est présentée comme ça. Et je veux dire, si c'est ça le résultat du parti de l'économie, j'ai hâte de voir ça être quoi les autres. En fait, j'ai pas tant hâte de voir ça être quoi les autres, en fait. Mais je pense que c'est le réveil qu'il avait besoin, François Legault. Je pense que la prochaine chose qu'il devrait faire, là, littéralement, c'est d'avoir une discussion très sérieuse avec Sonia Lebel et Éric Gérard. Puis à la limite aussi Christine Fréchette, là, parce que c'est les trois qui sont pas mal le trio économique et qui sont en mesure vraiment de c'est quoi la stratégie, là? Comment est-ce qu'on fait pour avoir à la fois un plan pour le retour à l'équilibre budgétaire, réduire le ne serait-ce que les dépenses, puis aussi être en mesure de redonner de l'argent dans les poches des contribuables pour que non seulement il y ait une volonté à voter pour moi l'année prochaine, mais qu'en plus de ça, ben, tu sais, sur la position ou l'idéologie économique, ben oui, réduire les taxes, les impôts, c'est bon pour l'économie parce que ça permet d'avoir plus d'activité, plus de dynamique. Et c'est ça qu'on a besoin, surtout dans un contexte où est-ce qu'on essaie d'être plus productif face aux Américains, face au contexte de la guerre tarifaire. Fait que tout ça, ben, c'est toutes les multiples patates chaudes avec lesquelles François Legault doit jongler présentement. Mais il peut pas en échapper une, parce que on est vraiment dans une situation plutôt critique quand on y pense.
Non, actuellement, par contribuable, je sais pas si tu l'avais mentionné tantôt, mais on est autour de 51 000 $ par contribuable. La dette du Québec s'élève à 352 milliards de dollars. Puis il y en a qui disaient, ouais, mais c'est quoi? Ça a baissé un peu entre 10 et 15 points, ce qui fait quoi? Des points de base, là, ce qui fait à peu près 0,15%. Cette année, là, avec la décote annoncée, ça pourrait représenter 30 à 45 millions de dollars de coûts de financement additionnels, Nick. C'est, tu sais, quand tu dis, OK, ben, c'est juste une petite décote, non, ça coûte 45 millions de dollars de plus, là.
De plus, puis tu sais, il y a quand même des gens qui, étaient en train de s'arracher leur chemise là, pour le fameux 5 millions qu'on a versé aux Kings de Los Angeles. Moi, quand je vois ces dépenses-là supplémentaires, ça me fait pas mal plus hurler bien fort. Puis oui, la raison pour laquelle le poids de la dette par habitant peut avoir été réduit à certains égards, c'est pas parce que la dette s'est réduite, c'est plus à cause de l'augmentation de la population québécoise. Je veux pas, on est rendu quand même à peu près 9,1 millions d'habitants. Donc, quand on se base sur cette unité-là, c'est sûr que le poids, il a l'air d'être moins important, mais quand on regarde ce qu'on paye, nous, en tant que contribuables, en termes de taxes et impôts pour couvrir le service sur la dette, c'est environ 1063 $ par personne. Donc, dites-vous qu'on paye 1000 $ cette année, chaque fois que vous achetez un café, chaque fois que vous revenez du travail, que ce soit sur votre revenu ou sur les taxes à la consommation, payez 1000 $ pas pour des services en santé ou un voyage ou autre. Donc, ça s'en va sur la dette. Donc, c'est 1000 $ par contribuable. Ça, ben, veut pas, c'est de l'argent perdu. Puis, je pense que ce montant-là, malheureusement, est appelé à augmenter, tout comme l'ensemble des autres factures, malheureusement.
qui va nous faire sauver de l'argent comme chef du Canada, comme premier ministre du Canada. Je regardais le débat des chefs hier. Il y avait Pierre Poilievre, il y avait Mark Carney, il y avait Jack Meeting, il y avait Yves-François Blanchette. Si tu veux mon avis, Yves-François Blanchette, bien que c'est quelqu'un que je n'aime vraiment pas, a été la deuxième étoile de cette soirée-là parce que la première, c'est Patrice Roy. À mes yeux, à moi, il a fait vraiment une belle job pour ce qui est du débat des chefs. Mais en deuxième, celui qui a remporté le débat parmi les autres chefs, c'est Yves-François Blanchette. J'aurais mis de mon côté Pierre Poilievre en deuxième position. Mark Carney, qui a joué la trappe, je l'aurais mis en troisième. Puis Jack Meat, je pense qu'il est à ses derniers mois de carrière comme chef du NPD, là, arrive vraiment en dernière position. Mais lequel, au niveau économique, t'as mieux paru, même s'ils n'ont pas de cadre financier annoncé? Là?
Oui, ben, je pense que c'est l'affaire la plus dérangeante à ce jour, c'est qu'on n'a pas encore de cadre financier puis l'élection est dans 11 jours. Là. Je veux dire, comme c'est rendu là, ils vont sortir la veille puis personne ne va le regarder avant d'aller voter. Fait, parce qu'à la fin de la journée, le cadre financier, c'est supposé être un argument sur lequel certains se basent pour aller voter. Mais là, on va l'avoir à la dernière minute. Je ne suis pas très chaud à ça, puis ça pour tous les partis politiques en passant. Ceci étant dit, moi, je suis un peu d'accord avec ton classement. C'est-à-dire que Patrice Roy, il a fait une très bonne job d'animateur. Je tiens à dire que c'est on a vu plusieurs débats dans le passé où est-ce que l'animateur n'était pas tout à fait sûr s'il faisait une bonne job ou s'il n'était pas trop biaisé. Dans son cas, au moins, c'est clair, il était assez neutre. Yves-François Blanchette, c'est sûr que, bon, il est dans son patelin, il est dans son chez-lui, il parle en français, c'est le seul que c'est sa langue première. Donc, on pouvait s'attendre à ce que ce soit lui qui se débrouille le mieux. Puis c'est effectivement ce qu'il a livré comme performance. Puis il a été... je trouve qu'il s'est attaqué quand même assez souvent à Mark Carney aussi, parce que veux pas, c'est lui qui menace effectivement le Bloc québécois. Quand on regarde les sondages, ça se joue entre le Bloc et les libéraux au Québec. Ceci étant dit, puis ça c'est en toute objectivité, celui qui me semblait être le plus sûr, ou du moins le plus rassurant quand il parlait de finances, ou du moins surtout des finances personnelles ou des contribuables, c'était Pierre Poilievre. Je trouve que son français était très bon. Le début du débat, je trouvais qu'il n'était pas aussi... cinglant ou frappant, qui est comme il l'est généralement en anglais, mais il a fini par s'imposer dans le débat. Mais je pense que déjà, en fait, avant même qu'on parle du débat, au début de l'élection, quand elle a été lancée, il y avait déjà une surenchère au niveau des baisses d'impôts que nous, on avait salué à la Fédération, c'est-à-dire que Carney promet quand même une baisse d'impôts de 1% pour le premier palier d'imposition fédérale. Puis ça ramène pas loin de 800 $ pour les familles. Puis là, Poilievre, il est allé plus loin. Lui, il parle de 2,5% de baisse d'impôts, ce qui c'est très bon. En fait, là, c'est pas loin de 1 800 $ par ménage. Donc, nous, on va toujours saluer la plus importante baisse d'impôts, mais toute baisse d'impôts mérite d'être saluée. Il l'a martelé, il l'a rappelé. Il a aussi rappelé qu'il était contre toute forme de taxe carbone, qu'elle soit pour les consommateurs ou industriels ou un marché de carbone, alors que Carney, lui, reste encore en mode « on va garder la taxe carbone industrielle fédérale, puis on pourrait même ramener une sorte de nouveau marché de carbone au niveau national ». Pas tout à fait sûr d'avoir bien compris exactement qu'est-ce qu'il voulait dire par là, mais je semble comprendre qu'il voulait ramener un nouveau mécanisme de tarification qui serait peut-être similaire à celui du Québec. On espère que non. Mais n'en reste qu'il y avait un manque de clarté à ce niveau-là. Et moi, ce qui me dérange le plus, c'est à moins que j'ai très mal entendu le débat, mais j'ai pas bien entendu parler de la dette ou de l'équilibre des finances. Et ça, pour moi, ça reste un élément important. La dette du Canada a doublé sous Justin Trudeau. Les dépenses gouvernementales ont presque doublé également. Le paiement sur la dette, on est rendu, tu sais, ça au Québec, on a toutes les raisons de chialer sur le 10 milliards que ça nous coûte cette année. Bien, au fédéral, c'est 54 milliards qu'on paye cette année en intérêt sur la dette. C'est hallucinant. Donc, c'est des choses comme ça qu'on aurait voulu avoir comme réponse, parce que c'est supposé faire partie du cadre financier qui n'a toujours pas été présenté par les partis. Ceci étant dit, Carney, sa stratégie, c'est on va ramener l'équilibre budgétaire en 3 ans. Mais attention, il va séparer le budget en deux. Donc, un budget d'opérations ou de dépenses du gouvernement, puis un budget d'investissement. Donc, le budget pour les investissements n'a pas besoin d'être balancé, d'être équilibré, mais ce sera le cas pour l'autre. Dans le fond, on joue avec les chiffres, là, c'est de la comptabilité, mais à la fin, ça ne va pas faire du tout disparaître les déficits. Puis je tiens à rappeler qu'une dépense puis un investissement aux yeux du gouvernement, il n'y a aucune différence. C'est sûr que l'investissement, il y a un retour, mais le retour sur investissement, là, on l'attend pour Nordvolt puis pour toutes les autres compagnies dans la filière électrique. Puis c'est aussi vrai pour le fédéral. Lui aussi, il peut faire des paris avec notre argent, puis finalement, cet argent-là est perdu. On l'a vu souvent avec Trudeau, puis on pourrait le revoir à nouveau, comme c'est le cas pour n'importe quel palier gouvernemental. Mais à la fin, je trouve que celui qui, dans le débat, a pris au moins le temps d'être un peu plus clair sur les questions des contribuables, c'était Poilievre. Blanchette, il a bien joué son jeu pour les autres, pour tout ce qui touche les champs de compétences. Mais je suis d'accord avec toi pour finir que Jack Meeting, honnêtement, j'ai pas du tout aimé. C'est pas nécessairement la présence ni. C'est vraiment le ton, en fait, que j'ai trouvé, là, d'essayer, en plus de commencer à quasiment crier après Patrice Roy parce qu'il n'a pas assez parlé de la santé dans le débat. Là. Je trouvais que ça sortait un peu de nulle part. Puis, comme à la fin de la journée, je pense que tout le monde était d'accord qu'il a eu tout son temps pour parler du système de santé. On comprend pourquoi est-ce qu'il voulait en parler en priorité. Ben, c'est pas mal le seul leg qu'a à donner le NPD par rapport à leurs 4 années à l'opposition à travailler avec les libéraux en plus. Donc, il voulait marteler ce message-là, mais je pense pas que ça a tant passé. Puis en plus, je pense que les Québécois sont assez au courant que la santé, c'est un champ de compétences provinciales, tout comme les soins dentaires. Fait que Jack Meeting n'a pas rejoint ben de Québécois là-dessus hier, d'après moi. Finalement, je pense que la dernière étoile que je peux donner, puis c'est pas la dernière étoile, là, mais pour tant qu'à le mentionner, c'est Carney. On s'attendait à pire.
Ben,
il y a bien du monde qui s'attendait à pire.
Moi, quand il a refusé le débat à TVA, j'ai été un peu déçu. Je trouvais ça un peu, excusez-moi l'expression, mais le 75 000 piastres demandé par individu, je trouvais ça un peu particulier. Là, mais ça, c'est TVA, c'est correct. Là. Il avait le droit de le faire, puis ils se sont essayés, puis ils n'ont pas eu le débat finalement. Mais je préfère la formule à TVA quand elle a lieu, parce que les questions ne sont pas fournies d'avance. Dans le cas de Radio-Canada, ouais, les questions sont fournies d'avance. On s'en est rendu compte dans le cas de Pierre Poilievre où par deux fois, il s'est répété. Par deux fois, il a repris les mêmes lignes. Mais Mark Carney avait pratiqué ses réponses en français là, pour être sûr et certain d'être le plus fluide possible. Tu sais, moi, que le PM parle français, c'est important. Est-ce qu'il doit avoir un français impeccable? Non, pas nécessairement. Au même titre qu'un PM qui arriverait du Québec puis qui aurait quelques difficultés en anglais, ça ne me dérange pas. Moi, ce que je veux, c'est le meilleur candidat possible à la meilleure place possible pour gérer un Canada. Mais dans le cas de Mark Carney, il a resté sur la défensive tout le long. Puis pourtant, on nous dit que c'est un as de l'économie, c'est un as des chiffres. J'ai pas senti ce petit côté expert-là. Il a resté vraiment en retrait. Il était hyper poli. Il n'y a pas de graines de premier ministre, là, même si on l'a mis premier ministre par intérêt, mais il va probablement gagner. Il n'y a pas de graines de premier ministre. Ça n'a pas de l'air d'un leader. Là. Mais ça, il aura tout le loisir de nous faire voir le contraire lorsqu'il arrivera pour son 4 ans de mandat. Là.
Effectivement, ben, je suis d'accord avec toi. À la fin, ça sonnait beaucoup. Il sonnait comme bien des choses, mais pas comme un politicien. Là. Il sonnait plus comme peut-être un économiste qui était là pour faire une présentation sur un panel puis s'en allait après.
C'est moi, je veux pour négocier contre Donald Trump, je veux un pitbull. Là. Je veux pas un caniche. Là.
Mais c'est ça, mais malheureusement, ou comme je sais pas comment dire ça, mais il n'y a pas le seul pitbull qui semblait avoir dans la pièce. C'est drôle parce que je pense que certains, dont Patrice Roy avait déjà comme mentionné Poilievre, c'était un peu comme un pitbull de la politique. Là. Je sais pas si c'est lui qui avait dit ça, mais en même temps, bon, c'est pas lui qui semble être favorisé dans les sondages ni par l'opinion média. Mais pour revenir à Carney, c'est ça, c'est qu'il sonne beaucoup plus comme un économiste, comme quelqu'un qui va être, ou un haut fonctionnaire plutôt. Moi, de mon côté, je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça a donné, en fait, l'appel entre lui et Trump la première fois, puis qu'est-ce que ça donnerait en temps et lieu si jamais il se revoit dans le cadre de négociations là, pour, au niveau des tarifs. Mais une chose est sûre, hier, c'était, en tout cas, je parle peut-être pour moi-même, là, en tant que personne qui adore la politique, qui suit à peu près tous les débats, puis qui s'intéresse à ça depuis plus d'une décennie, c'était pas le débat le plus marquant. C'est pas un débat que je pense qui a vraiment fait une grande différence. Je pense qu'il y avait des gros absents. Je l'ai mentionné, la dette, les déficits, l'aspect contribuable d'aujourd'hui et de demain. Ça a été à peine effleuré dans le débat, puis ça aurait mérité beaucoup plus de place. Il y a eu beaucoup de one-liners qui ont été faits. Effectivement, je suis plus fan de l'approche TVA où est-ce qu'il y avait plus de. C'est un face-à-face où est-ce qu'on n'avait pas de questions. En fait, c'est plus d'improvisation on the spot. Et là, c'est généralement là qu'on voit que les politiciens ont ce qu'ils ont dans le ventre, en fait. Qu'est-ce qu'ils sont capables de faire quand ils sont pris au dépourvu? Dans ce cas-ci, ben, c'était pas mal un peu scripté. Donc, c'est pour ça que le débat avait un peu une allure fade et un peu plate. Puis en plus, rajouter ça en plus avec la game de hockey où est-ce qu'il y a bien plus de monde qui ont écouté le Canadien de Montréal que de gens qui ont écouté le débat. J'ai pas vu les codes d'écoute, mais je suis persuadé de pas me tromper là-dessus. Ceci étant dit, le débat n'aura pas changé grand-chose, mais Parce qu'il n'y a pas de gagnant, en fait, clairement, dans ce débat-là. Mais à mes yeux, le perdant, c'est le contribuable qui n'a pas eu plus d'informations qu'il mérite. Mais sinon, c'est ça. On est à la même place qu'on était il y a à peu près 2 jours.
Je vous rappelle qu'on passe la soirée avec mon chum, l'excellent Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. Vous voulez en savoir plus sur cette belle fédération-là qui vous défend à la grandeur du Canada? C'est contribuable avec un S.ca. On fait une courte pause et on revient.
Marceau, le soir.
Ce segment d'émission présenté par Pièces d'auto économique. Pièces d'auto économique, c'est des pièces neuves garanties, les meilleurs prix et des grandes marques comme Rebestos, Bosch et Mevotech. Pièceséconomique.com.
Rage Against le Matin.
Monsieur Labombe, on parle beaucoup d'inertie présentement à la Ville de Québec et puis vous le cachez pas, point barre, vous aviez pas une bonne relation avec la CAQ. Qu'est-ce qui a chopé tant que ça avec la CAQ?
Ils ont décidé qu'ils se donnaient une stratégie d'être contre les projets de la Ville. Mm-hmm. Alors, pas besoin de te dire que quelqu'un qui est contre les projets de la Ville, quand j'étais maire, moi, ça marchait pas.
En effet.
Alors, j'ai blasté puis j'ai dit « touchez pas à ça ». Puis ils ont perdu. T'sais, j'ai connu 6 premiers ministres, moi, là. Ça n'a de rien, là. C'est parce que Jean Charest, il aimait ça, les projets, lui. J'arrivais à des rencontres, puis Jean Charest me disait, bon, ben, Régis, avant qu'on parle du projet, dis-moi non, combien ça coûte, que... Alors, c'est pas de travailler avec un premier ministre qui a le goût de développer. C'est vraiment agréable, là, tu sais. Puis Jean Charest, puis même Philippe Couillard, on a eu beaucoup de plaisir, mais bon, que veux-tu? C'est de même, là. La CAQ, ils sont vindicatifs, là.
Rage Against le Matin. Tous les jours en semaine, 6h. Sinon,
vous retrouvez tous nos coups de circuit sur le blvd.fm.
C'est ça.
Salut la gang, c'est François Baudry, chroniqueur web de l'émission Gravel dans le retour. T'aimes mes chroniques? Tu veux en savoir plus sur le monde numérique? Rends-toi sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube.
Boulevard 102.1 lance son pool des séries LNH 2025 en collaboration avec Fromagerie Victoria. C'est un plan depuis un bout, mais on voulait attendre que le Canadien confirme enfin sa place en série. Il y a évidemment beaucoup d'honneurs à gagner, mais aussi 500 $ chez Fromagerie Victoria. Il y a moyen de se gâter solide avec ça. Pour participer, inscrivez BLVD 2025 dans l'onglet Accès rapide du marqueur.com. Vous allez créer un compte et faire vos choix pour être inscrit au pool. C'est une formule qui est super simple. N'importe qui peut participer, même Audrey Pinchot. 18 rondes dans lesquelles vous devez choisir un joueur parmi 5 choix. Vous pouvez y aller au hasard, puis vous avez quasiment autant de chances de gagner que moi. Bonne chance à tous. Vous en aurez besoin pour espérer mettre la main sur 500 $ chez Fromagerie Victoria. Go, Habs, go!
Imaginez ça, 30 secondes. Vous arrivez chez Beauport Nissan ou Sainte-Foy Nissan, et avec la location ou l'achat de votre nouveau Nissan, on vous donne le choix entre un rabais jusqu'à 1 500 $, jusqu'à 1 500 $ en crédit pour des accessoires, ou même 3 ans d'entretien prépayé. Pas facile de choisir, hein? En avril, vous avez le choix. Alors décidez et roulez avec Sainte-Foy Nissan et Beauport Nissan. Certaines conditions s'appliquent. Détails en concession.
Chez Poliquin Décor, profitez de plus de 60 ans d'expertise et d'un service à la clientèle exceptionnel dans l'habillage de fenêtres. Découvrez notre vaste sélection de papier peint, rideaux, toiles et stores. Et profitez de nos promotions en cours. Poliquindécor.com.
La chasse au choco la plus facile au Québec est ouverte, mais pour un temps limité seulement. Trouvez rapidement votre chocolat de qualité Giacomo, fait avec du vrai beurre de cacao. Suffit de visiter trouvetonchocolat.ca avant qu'il disparaisse.
Ce week-end de Pâques, régalez-vous chez Normandin avec le menu des sucres et les déjeuners servis en tout temps. Ou faites le brunch à la maison et soyez prêts à recevoir avec la boîte déjeuner brunch prête à emporter. Elle comprend quiche, creton, fèves au lard, mini-pâté, jambon à l'érable, pâte à crêpes, coulis de sucre à la crème et le fameux pudding chômeur à l'érable. Parfait pour 4 à 6 personnes pour seulement $74,99. Réservé à restaurantnormandin.com, Normandin, ça fait plaisir.
Les gros week-ends couche-tard présentent...
Les aventures de gros et gros big.
Non, je peux pas le manger.
Arrête, c'est juste un lapin.
Ben oui, mais regarde-y les yeux.
Il se mange aussi. Si tu le manges pas, je vais le manger, moi.
Non, c'est bon, je vais le faire.
Pis?
Tu as eu raison.
C'est du bon chocolat.
Du 17 au 21 avril, c'est le gros week-end de Pâques chez Couche-Tard. Les Body Armor sont à 2 pour 3 $. Le lait au chocolat Béatrice 1 litre est à 1,49 $. Les caisses de 36 Budweiser et Bud Light sont au prix minimum. Et les caisses de 12 Corona, Heineken et Sapporo sont à 19,99 $. Couche-Tard, simple comme bonjour. 18 ans et plus, détails en magasin.
Cineos Health, là où chaque témoignage fait la différence.
Salut mesdames, c'est Sophie, 42 ans. Et j'attendais avec impatience une étude clinique qui prend en compte la contraception hormonale. Cineos Health, une nouvelle étude pour les femmes âgées de 18 à 45 ans qui utilisent la pilule contraceptive depuis au moins 3 mois. Ne manquez pas cette chance. Rejoins-nous et ensemble faisons la différence au gocineos.com. Groupe débutant au mois de mai.
Cineos Health. Pour un futur en santé.
Transformez votre cour grâce à MultiSB, spécialiste en pavés, murets et aménagements extérieurs. MultiSB crée des espaces à votre image avec les produits Permacon et Rinox. Soumission gratuite, service personnalisé et encore de la place ce printemps. Visitez multisb.com.
À Québec, un Ford, ça se mange déjà un Ford.
Avec le retour du programme Roulez vert, louez l'Escape PHEV pour 99 $ par semaine et obtenez jusqu'à 15 000 $ de rabais sur la grande liquidation des Mach-E 2024 incluant programme Roulez vert. Ne manquez pas cette occasion. Passez nous voir chez Desjardins Autocollection sur la rue Marais à Vanier. Détails en concession.
À Québec, un Ford, ça se branche chez Desjardins Ford.
Pendant que Stéréo Plus Le Bourgneuf se refait une beauté, continuez de profiter du meilleur service en ville et de la livraison gratuite au stéréoplus.com.
Vous voulez vendre votre maison? SimonLaberge.com. Les courtiers immobiliers numéro 1 au Québec du palmarès Via Capital. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contacts. Vous voulez vraiment vendre votre maison? SimonLaberge.com. Courtier immobilier Via Capital. SimonLaberge.com.
Golf Lobinière. Un club, trois parcours. Votre brunch du dimanche de Pâques, c'est au Golf Lobinière que ça se passe. Buffet copieux incluant fontaine de chocolat pour petits et grands. Profitez d'un rabais de 10% sur les réservations de 10 personnes et plus. Formule brunch offerte chaque dimanche jusqu'en décembre. Pensez également à réserver pour la fête des mères. Golf Lobinière, l'excellence à prix abordable. Saint-Gilles, sortie 305 de l'autoroute 20, à 15 minutes des ponts.
Patio ou piscine en vue? Décorump, spécialiste en garde-corps verre et aluminium, vous offre rapidement une fabrication québécoise sur mesure, garantie 20 ans avec un rabais de 15%. Rendez-vous sur déco-rump.com ou visitez-nous à Québec, Lévis ou Saint-Apollinaire.
Pourquoi l'Outlander PHEV est l'hybride branchable le plus vendu au monde? Pour sa garantie 10 ans ou 160 000 km, pour sa super traction intégrale, pour la performance de sa batterie et surtout pour l'économie de plus de 50% sur vos factures d'essence. La subvention provinciale de 2 000 $ est de retour et vous aurez la possibilité d'avoir 7 passagers à bord. Ne manquez pas cette offre incroyable chez Québec et Sainte-Foy Mitsubishi, au 1000 boulevard Pierre-Bertrand ou au 2830 rue Einstein.
L'application Boulevard. Dans une poche près de chez vous. Poche de jeans. Poche de shorts. Pis même ta poche d'hockey. Appelez, textez, votez, réécoutez. L'app Boulevard 102.1. C'est plus que du rock. Marceau le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau le soir. Le soir. Le soir.
Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables passe la soirée avec nous autres. Merci de prendre un peu de temps pour nous autres. Je sais que tu es très occupé, mon ami. Fait que c'est le fun. Tu le fais pour les bonnes raisons. Tu le fais pour les contribuables. C'est quoi ton titre à la Fédération canadienne des contribuables? Toi, tu t'occupes uniquement de la province de Québec?
Oui, entre autres, je suis directeur à Québec, donc essentiellement, c'est tout ce qui touche les affaires autant municipales que provinciales, puis aussi, je touche le domaine plus fédéral en tant que directeur pour les affaires francophones. Donc, plus souvent qu'autrement, je touche le Québec, mais on s'entend qu'il y a quand même beaucoup d'actions au fédéral, fait que je m'assure de soit être le représentant quand il y a des demandes d'entrevue dans le reste du Canada par rapport aux questions fédérales, ou sinon de rapporter aux Québécois ce qui se passe à ce niveau-là. Donc, dans tous les cas, on s'assure de bien couvrir le dossier, fait que mon rôle, c'est vraiment des directeurs plus pour le Québec que pour autre chose, mais on couvre tous les angles sans aucune exception.
All right. Hey, avec la Fédération canadienne des contribuables, on salue la personne qui vient de se joindre à nous sur le Zoom. Là, c'était pas prévu, donc ça sera pas long, on va se retirer. Mais on parle de la taxe carbone, le fameux sondage sur la taxe carbone. Ça fait beaucoup jaser. Tu sais, je regardais dans le secteur, ben pas très loin de chez toi. Là, on continue un petit peu plus vers l'ouest. Puis il y a une ville qui s'appelle Gatineau qui est collée sur Ottawa. Et il y a 20, 25, 30 cents de différence du litre d'essence. Tu sais, 30 cents de différence, ça n'a pas de maudit bon sens. Puis de voir qu'en tant que Québécois, il y en a beaucoup qui acceptent ça. Il y avait d'ailleurs un éditorialiste qui écrivait, je pense que c'était sur La Presse de mémoire, qui disait qu'il était très fier, lui, d'être à Gatineau puis de payer son 20 cents, son 30 cents de plus parce qu'il y avait beaucoup de services au Québec. Il était très heureux de ça. Mais je serais curieux de l'espionner, lui. Je serais curieux de l'espionner quand personne ne le regarde, voir s'il ne traverse pas le pont l'autre bord pour sauver un 20-30 cents. Ça fait beaucoup jaser, ça, au Québec, le fait qu'ailleurs, au Canada, l'essence est beaucoup moins chère. 1,09 $. 1,09 $ du litre l'autre côté. Puis à certains endroits au Québec, là, c'est 1,50 $, Nick.
Ça n'a pas de bon sens, puis je veux dire, c'est clair que la taxe carbone, son retrait dans le reste du Canada, ça joue pour beaucoup, mais on ne rappellera jamais assez qu'il n'y a pas juste la taxe carbone qu'on paye en termes de taxes sur l'essence au Québec. On a la taxe provinciale sur les carburants, on a la taxe d'assises fédérales, on a la taxe sur le transport en commun dans le coin de Montréal, ajouté à ça la TPS puis la TVQ. On avait encore le prix plancher jusqu'à tout récemment. Il y a du monde qui s'opposait au retrait du prix plancher, mais ils ne semblent pas comprendre que le prix plancher, ça n'existe pas dans l'ouest du Canada. Là. Il n'y a pas une seule province à l'ouest du Québec qui a un prix plancher. Fait que la disparition de ce mécanisme-là, inquiétez-vous pas, ça ne va rien faire de plus que ce que ça fait dans le reste du Canada. Là. Donc, ça ne peut pas être une mauvaise chose. Mais il y a une panoplie de mécanismes comme ça qui, clairement, maintiennent les prix artificiellement plus élevés parce que ce sont les taxes, ça maintient artificiellement le prix d'un produit plus élevé. Dans le cas de la taxe carbone, ben, on est les seuls à en payer une. C'est environ 9 à 10 cents par litre présentement. Et malheureusement, on dirait qu'à l'Assemblée nationale, il n'y a pas vraiment de volonté présentement à rouvrir le débat. On l'a vu la semaine dernière avec le vote unanime où est-ce que 102 des députés qui étaient présents en chambre, parce que bon, sur les 125, il y en avait juste 102 à ce moment-là, mais il y a eu un vote unanime où est-ce que tous les partis se sont entendus pour maintenir la bourse du carbone du Québec et donc par extension la taxe carbone qu'on paye dans les stations de service. Ceci étant dit, il n'y a pas juste sur l'essence que la taxe s'applique. Là. Il y a aussi le diesel, donc ça touche aussi les camionneurs. Dites-vous que les camionneurs, ils transportent quoi? Ben, les produits, ce qui se ramasse sur les étagères, ce qui se ramasse dans les épiceries. Et veut pas, ben, s'il y a un coût du transport qui est plus élevé, ben, le prix des produits va être plus élevé par extension. Et nous, ben, en réaction, en fait, à ce fait que finalement, il y avait un vote unanime à l'Assemblée nationale, on a commandé un sondage auprès de la firme Léger pour un peu exposer cette distorsion démocratique-là. Et on a été à peine surpris de constater qu'en fait, un Québécois sur deux sont contre la taxe carbone du Québec, considère que c'est une injustice qu'on soit les seuls à la payer présentement au Canada. Et écoutez, c'est le sondage comme tel, là, les chiffres, c'est 49 % qui veulent qu'on retire la taxe carbone, 32 % qui veulent qu'on la conserve, puis un 19 % d'indécis. Mais une fois qu'on retire les indécis de l'équation, 60 % des Québécois sont contre la taxe carbone, puis un 40 % pour. Ça donne une idée de qui a une idée vraiment arrêtée sur le dossier puis qui ne l'a pas. Ouais. Mais on voit clairement qu'il y a une distorsion entre le vote à l'Assemblée nationale puis l'opinion de la population sur ce dossier-là.
Et Nick, je pense qu'on s'en était parlé dans Marceau le midi. Là. Tu sais que j'ai des dons de médiumnité. Je suis très reconnu pour ça dans ma famille. On m'appelle Jojo Marceau. Je suis persuadé qu'à la dernière année du mandat de la Coalition Avenir Québec, ça va. T'sais, quand on dit la fin justifie les moyens, là, la taxe carbone du Québec va disparaître. Et là, on va dire « Merci, Monsieur Legault! » Et ça va permettre à la CAQ d'acheter encore des votes à leur dernière année du mandat. Des fois, je me trompe. Je me trompe une fois sur deux, là, mais j'ai vraiment l'impression que c'est ce qu'ils vont nous sortir. Ils attendent le plus longtemps possible pour ramasser du pognon. Puis lorsqu'ils voudront aller en élection, ils vont nous arriver avec une patente comme ça. Et ils vont dire « Voyez, on essaie de faire ce qui est le mieux pour les Québécois. On va faire un effort pendant quelques temps, patati patata. » Puis dans quelques années, ils vont nous remettre une autre patente de taxe carbone qu'ils l'appelleront, je sais pas moi, la taxe avec un autre nom, la taxe fumée, je sais pas qui c'est.
Taxe rose, taxe bleue, appelle ça comme tu veux, taxe carbone.
Ouais.
Ben, c'est ça, la fin de la journée, la seule différence entre une taxe et la taxe carbone, c'est le mot carbone après le mot taxe. Là, parce qu'à la fin, c'est bien beau pour être pour les émissions des entreprises là, qui polluent au-dessus d'un certain seuil au niveau des GES qu'ils émettent. Mais à la fin de la journée, c'est une méthode de perception pour le gouvernement. Puis honnêtement, j'espère que tu as raison. Ma seule crainte, en fait, je ne sais pas comment dire ça exactement, c'est qu'on ne sait pas comment les élections fédérales vont se conclure. Et la réalité, c'est que si, par exemple, Carney est élu et qu'il va de l'avant avec une nouvelle forme de marché de carbone qui remplacerait l'ancien mécanisme qui était applicable aux consommateurs, bien là, le Québec va se retrouver pas mal à choisir entre son propre mécanisme ou celui qui sera imposé par le fédéral, comme c'était le cas au cours des dernières années, parce que, veux pas, oui, la taxe carbone au Québec, elle nous pénalise injustement, et c'est un mécanisme qui ne fonctionne pas, mais en contrepartie, on payait beaucoup moins cher que ce que les autres Canadiens payent. La taxe carbone, pour eux autres, c'est environ 21 cents par litre d'essence versus nous qui est 10. Donc, imaginez la différence de prix, elle est là aussi. Donc, j'espère qu'on ne va pas se retrouver à devoir choisir entre la taxe carbone du Québec, la taxe carbone d'Ottawa, parce que dans les deux cas, on est perdant. Mais si, par exemple, il y a un renversement, si, par exemple, les libéraux sont minoritaires ou les conservateurs sont majoritaires ou minoritaires, si ça joue comme ça, il y a des bonnes chances que la pression sur la taxe carbone soit maintenue au niveau fédéral. Et là, peut-être que l'année prochaine, espérons-le, Legault va finir par faire un 180 degrés là-dessus. Peut-être que ce sera juste à temps pour les élections, puis ça va sonner comme un anan électoral, mais ça va rester une victoire pour les contribuables, puis pour nous, c'est tout ce qui compte.
Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables, je te souhaite de passer un super de beau week-end. C'est le congé de Pâques, fait que je te souhaite bien de chocolat, puis amuse-toi, repose-toi, tu travailles extrêmement fort.
À toi aussi, puis joyeux Pâques à tous les auditeurs, puis j'ai bien hâte qu'on se rejase très bientôt.
À la prochaine, bye-bye. Nous, on se laisse là-dessus, les amis, puis oui, joyeux Pâques à vous aussi, si vous voulez en savoir plus sur la Fédération canadienne.